La première chose, ça a été son initiative pour reprendre globalement contact avec le monde des jeunes. Nous sommes une société, spécialement dans la partie, je dirais, occidentale de l'Europe, où le vieillissement est important et où les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver leur place, y compris dans l'Église. Alors, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure, de quelle façon, je dirais, le nouveau pape prendra-t-il en charge cette aspiration très forte de la jeunesse et ce visage positif et joyeux du christianisme qui a été impulsé par Jean-Paul II. Jean-Paul II a su, par ses voyages et aussi par le système diplomatique qu'il a pris en charge, il a su créer des passerelles et des ponts. En ce sens-là, je crois que là aussi, trouver quelqu'un qui assume tout cet héritage, qui le développe, bien sûr, je pense que nous sommes là devant une image de la papauté qu'il n'a jamais eue dans le passé et que nous devons en grande partie à Jean-Paul II le dynamisme qu'il a su impulser.
Cela dit, il reste des chantiers ouverts. On parle beaucoup de la bioéthique, des biotechnologies.
Effectivement, c'est que nous sommes dans une situation où les progrès technologiques vont d'une vitesse extrêmement forte, très rapide. Au fond, quel est le prix de l'homme aujourd'hui? Si l'homme est manipulable, transformable, si on peut faire n'importe quoi, quelle responsabilité avons-nous sur le devenir même de la vie humaine et de la dignité humaine dans la société d'aujourd'hui?
Alors on relève que Jean-Paul II a posé des gestes spectaculaires en ce qui concerne le dialogue interreligieux, on se souvient d'Assise, mais qu'en revanche cela s'est moins bien passé sur le plan œcuménique, notamment avec le monde protestant.
Oui, c'est sûr, mais c'est qu'il y a en fait des problèmes de fond qu'il nous faut traiter. Il est sûr que, je dirais, Jean-Paul II, compte tenu de son passé, a beaucoup insisté sur le développement des relations avec le monde orthodoxe, et Dieu sait si c'était important après la chute du mur, hein, et la chute du communisme. Mais alors là où, effectivement, on se trouve peut-être plus gêné, c'est par rapport à la réforme telle qu'elle est pratiquée chez nous, dans la mesure où celle-ci a une très grande diversité, puisque cela va, je dirais, d'un protestantisme libéral au retour des évangélistes. Et en ce sens-là, on ne sait pas toujours très bien comment avoir un dialogue unifié. Sur le plan des théologiens, il y a un très bon travail qui se fait, ça c'est sûr. Mais je pense qu'un certain nombre de rappels, comme par exemple concernant l'hospitalité eucharistique, concernant la célébration des sacrements, etc., on fait dire à certains journaux qu'il y avait un recul. C'est absolument une erreur, c'est-à-dire que je crois qu'il faut que chaque interlocuteur garde au fond son identité, sa mémoire et son histoire.
Et que pensez-vous de ceux qui préconisent une décentralisation de l'Église?
Oui, qu'il y ait une décentralisation, je suis tout à fait d'accord, mais il ne s'agit pas de recréer au plan national des structures que l'on regretterait au niveau international, qu'on trouverait trop lourdes au niveau international. Je crois que l'Église, il y a le ministère de Pierre avec sa dimension universelle, et puis le ministère diocésain, l'Église locale. Et en fait, je crois que c'est peut-être aussi à nous de prendre nos responsabilités par rapport à un certain nombre de choses, d'ouvertures qui ont été faites, de possibilités qu'ils ont ouvertes, mais je crois qu'il y a tout un côté médiatique qui me gêne un peu dans cette affaire, parce que je pense que ce n'est pas une décentralisation des structures qui est nécessaire, mais peut-être une décentralisation des esprits.